Il arrive parfois que l'histoire prenne les choses en main. Thurgood Marshall, héros de la cause des droits civiques et 96e juge de la Cour suprême des États-Unis. Chapitre 1. Meredith McKenzie conservait un souvenir intact du jour où son père avait été mobilisé, en février 1942. Elle se rappelait tout, de sa silhouette imposante au bouton de son uniforme, et jusqu'à l'odeur du savon à barbe qui avait chatouillé ses narines lorsqu'elle l'avait embrassé. Elle n'avait qu'à fermer les yeux pour qu'il lui apparaisse tel qu'il avait été en ce jour si particulier. Du reste de la journée, elle ne se remémorait que des bribes. Les larmes qui baignaient les joues de sa mère, l'angoisse qui tordait le visage de ses grands-parents au moment du départ, la voix de son grand-père, Bill, qui l'exhortait à garder la tête haute. Robert McKenzie, le père de Meredith, s'était enrôlé après l'attaque de Pearl Harbor. En sa qualité d'avocat, il avait été affecté au corps juridique et partait donc pour Washington. Il avait 37 ans, 4 de plus que Janet, son épouse. Meredith en avait presque 6. Son papa lui avait promis qu'elle pourrait le rejoindre dans sa nouvelle ville sitôt qu'il y serait installé. L'enfant avait vu sa mère éplorée se cramponner à lui, tandis que sa grand-mère, stoïque, contenait son émotion. C'était Robert qui avait insisté pour qu'ils se disent au revoir à l'appartement. À la gare, disait-il, ce serait la pagaille. Et puis, il ne partait pas outre-mer, contrairement à la majorité des soldats qui se bousculeraient sur le quai. Il n'y avait pas de quoi en faire tout un plat. Ainsi, Robert McKenzie avait-il adressé un dernier signe et un dernier sourire à sa famille, puis, son sac de toile à l'épaule, sa casquette d'officier crânement vissée sur la tête et son lourd manteau sur le dos, il avait tourné les talons. Après le départ de Robert, le grand-père de Meredith l'avait emmené se promener au prétexte de lui faire prendre l'air. Il s'agissait en réalité de permettre à Janet de se recomposer et de discuter librement avec sa belle-mère. Ses propres parents étaient morts depuis plusieurs années et elle n'avait d'autre famille que celle de son mari. « Tu comprends pourquoi ton papa s'en va, n'est-ce pas ?» avait demandé Bill à Meredith tandis qu'il longeait Central Park. La fillette avait réfléchi et secoué la tête. À l'école, deux de ses camarades avaient des papas dans l'armée, mais eux, on les avait envoyés dans une base militaire du New Jersey. Les enfants racontaient qu'ils devaient s'entraîner avant de partir pour l'Europe à bord d'un gros bateau. Le papa de Mary n'allait pas combattre d'ennemis à Washington. Il y exercerait le même métier qu'à la maison, c'était lui-même qui le lui avait dit. Et rien n'allait changer. Maman et grand-mère continueraient d'endosser les drôles de blouses de la Croix-Rouge qui les faisaient ressembler à des infirmières. Elles étaient bénévoles et organisaient une collecte de sang qui devait, semblait-il, aider les soldats blessés au combat.
« Ton père aussi va défendre notre pays contre les méchants », lui avait expliqué grand-père d'un ton solennel en s'asseyant sur un banc. « Il nous protège contre ceux qui nous veulent du mal. C'est pour cela qu'il doit s'en aller, c'est très important. Parce que notre liberté, Meredith, c'est notre bien le plus précieux, tu comprends ?»
De nouveau, Mary avait réfléchi et fait non de la tête. Son grand-père lui parlait souvent de sujets auxquels elle n'entendait pas grand-chose, mais il la traitait comme une grande personne, et cela lui plaisait.
« Être libre, ça veut dire pouvoir choisir, prendre des décisions sans qu'on nous force. Personne n'a le droit de nous empêcher de faire le bien ou de nous obliger à faire le mal. Sinon, on devient des esclaves. En ce moment, dans le monde, il y a des méchants, comme M. Hitler en Allemagne, qui voudraient qu'on devienne leurs esclaves. C'est pour cela que les peuples libres du monde entier vont aller en Europe pour l'arrêter. Quand la guerre sera finie, ces gens seront des héros, et ton papa aussi.
« Mais papa, il va rencontrer M. Hitler à Washington ?»
avait demandé la fillette avec beaucoup d'intérêt. Bill McKenzie avait souri.
« J'espère bien que non. M. Hitler habite en Allemagne. Ton père va mettre ses talents au service de son pays, de l'armée américaine et du président des États-Unis. »
Mary savait que son papa et son grand-père étaient « avocats », tous les deux, mais elle ignorait le sens de ce mot. Ce qu'il faisait concrètement représentait pour elle un mystère.
Peut-être qu'un jour ton père affrontera M. Hitler, avait repris Bill McKenzie. Mais ce sera dans un tribunal. Et ce jour n'est pas arrivé.
Toi aussi tu vas le rencontrer ?
Avait renchéri la petite.
Tu vas te battre contre lui ?
Bill avait eu un signe de dénégation.
Non, ma chérie. Je me suis déjà battu dans ma jeunesse. En France.
Lorsque les États-Unis avaient volé au secours de l'Entente 25 ans auparavant, William Mackenzie, alors âgé de 35 ans, y avait pris part. Il était rentré indemne. Tous n'avaient pas eu sa chance. Mary se concentrait.
« Grand-père ? »
avait-elle demandé.
« Est-ce que les filles peuvent devenir avocates, elles aussi ?»«
Bien sûr !»
lui avait assuré Bill. S'il l'avait entendu, son fils aurait poussé les hauts cris. Mais il n'était pas là. Au reste, pourquoi Meredith ne perpétuerait-elle pas la tradition familiale ? Bill ne voyait pas pour quelle raison elle n'intégrerait pas un jour le cabinet où père et fils travaillaient de conserve. Certes, étudier le droit constituait en ce temps-là un choix audacieux pour une femme, et, le moment venu, cette décision appartiendrait à Meredith et à elle seule. Mais la guerre allait transformer le monde, Bill le savait d'expérience. Les femmes participant à l'effort de guerre reprendraient les emplois occupés par les hommes en temps de paix. Dans un avenir pas si lointain, des domaines autrefois réservés à ces messieurs allaient s'ouvrir aux femmes. Robert nourrissait d'autres projets pour sa fille. Il espérait qu'elle marcherait sur les traces de sa mère, mariée, mère de famille et femme au foyer. C'était ainsi qu'il la voyait dans quelques années. Bill, pour sa part, avait pour la petite bien plus d'ambition. Si sa propre épouse, mariée à 19 ans et maman à 20, n'avait jamais travaillé et que Bill ne s'en plaignait nullement, Meredith Mackenzie appartenait à une nouvelle génération, mieux, à un nouveau monde. Aux États-Unis comme en Europe, on se battait pour toutes sortes de libertés et son grand-père souhaitait qu'elle en bénéficie.
« Alors, moi aussi, plus tard, je serai avocate, » déclara Meredith. « Ou alors médecin, ou peut-être infirmière. »
« Tu seras ce que tu voudras », lui promit son grand-père. Main dans la main, ils traversèrent la 5e avenue et reprirent le chemin de l'appartement familial. À la maison, les attendaient du thé, des sandwichs et des biscuits. Meredith, à qui la promenade avait ouvert l'appétit, fit honneur à la collation, avala un grand verre de lait et laissa les adultes entre eux pour qu'ils puissent parler de la guerre. Là s'arrêtaient ses souvenirs de la journée. Mais le discours de son grand-père sur la liberté, elle devait ne jamais l'oublier. Elle y pensait encore en montant dans sa chambre pour jouer avec ses poupées. Ce jour-là, une vocation était née. Janet rendit visite à son mari à Washington une fois par semaine. En l'absence de sa mère, Mary couchait chez ses grands-parents. Elle ne revit son papa que de longs mois plus tard, quand Robert Mackenzie revint à la maison à l'occasion d'une permission. Il lui consacra beaucoup de son temps et s'étonna de la découvrir si bien renseignée sur la guerre qui faisait rage en Europe. C'était une enfant éveillée, il ne l'ignorait pas. Quant à la source de son savoir, Robert n'eut aucun mal à l'identifier. « Je ne veux pas que tu lui parles de ces choses-là, papa, » reprocha Robert à son père. « Elle n'a que 6 ans, elle n'a pas besoin de savoir. »« Je ne suis pas de ton avis. Ne la sous-estime pas. Mary est maligne, et tu penses bien que je n'entre pas dans les détails. Je me contente de lui expliquer la situation dans les grandes lignes, je ne suis pas idiot. » « Raconte-moi plutôt ce que tu sais. Quelles sont les nouvelles d'Europe ?»
Comme tout à chacun, à l'époque, Bill était assoiffé d'informations.
« Les Alliés prennent une dérouillée, » maugréa Robert. « Hitler semble déterminé à annexer l'Europe entière. Pour ne rien te cacher, nous essuyons de lourdes pertes. Mais les Alliés n'ont pas dit leur dernier mot. »
Bill s'assombrit.
« Tu risques d'être envoyé au front ?»
Non, en tout cas pas dans l'immédiat. On a trop besoin de moi ici. C'est que je ne chôme pas à Washington. Et je ne suis plus dans ma première jeunesse. Ce sont les gosses qu'on envoie au front.
Les combats aériens jouaient un rôle critique dans cette guerre. Chaque jour, les Alliés larguaient de nouveaux régiments de parachutistes en Allemagne, en Italie et en France. Au vu de son âge et de son rang, il était peu probable en effet que Robert soit appelé à les rejoindre. Il avait brièvement été question de le rattacher à une unité en partance pour l'Angleterre, qui devait prêter main forte à la Royal Air Force, mais le projet avait été abandonné.